Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Blaise Ndali pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, grand plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre votre journal dont voici les titres. Plus de 60 civils tués à Beni et Lubero en seulement un mois. Des crimes attribués aux rebelles des ADF qui multiplient les attaques contre les populations civiles dans ces deux territoires, indique la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. La ministre de l'Environnement va en guerre contre les sociétés minières pollueurs dans le Haut-Katanga. Marie Nyange a ordonné par exemple la non-reprise des activités au sein de l'entreprise minière CEDEM, entreprise qui a pollué l'environnement en novembre 2025 à Lubumbashi. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central a autorisé le mercredi 28 janvier 2026 l'ouverture d'une instruction judiciaire à l'encontre du gouverneur de cette province. Motif, les détournements présumés des deniers publics. Cette question a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. Vous allez les suivre tour à tour au micro de Jean-Marc Matwaki. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Notez d'abord cette nouvelle en provenance de Kisangani. L'aéroport international de Bangoka est opérationnel à 100%. Confirmation du commandant de cette infrastructure aérienne dans la Tchopo. Godard Wamba précise que ses activités se poursuivent grâce au FARDC qui y assure la sécurité au maximum. Rappelons que des sources sécuritaires ont rapporté dans la soirée d'hier jeudi la destruction des trois drones kamikazes. Sécurité encore avec ces tableaux sombres dressés par la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Au moins 62 civils tués à Beni et Lubero en seulement un mois. Des crimes attribués aux rebelles des ADF qui multiplient les attaques contre les populations civiles dans ces deux territoires, indique cette structure. Face donc à cette situation, la coordination provinciale de la société civile appelle le gouvernement à renforcer la protection des habitants de la région. Détail avec Martial Papimukeba.
Depuis le début de l'année, au moins 70 civils ont été tués dans les territoires de Beni et Lubero lors d'attaques attribuées aux rebelles ADF. Selon la coordination provinciale de la société civile, plus de 50 personnes ont été tuées en territoire de Lubero et 10 autres en territoire de Beni. Les attaques ont également provoqué d'importants dégâts matériels. Un poste de santé, 23 motos, 67 boutiques, 10 maisons d'habitation ainsi que les barzas d'un chef de localité ont été essentiels. Des milliers de familles ont été déplacées par ces violences, précise la société civile. Face à cette situation, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement central de renforcer les capacités opérationnelles des FARDC, de réévaluer les opérations conjointes des armées congolaises, FARDC et ougandaises, UPDF, et d'apporter une assistance urgente aux populations déplacées, victimes de ces attaques répétitives. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle concernant les survivants des violences sexuelles de la zone de santé de Salamabila, en territoire de Kabambare, dans le Maniema. L'organisation Réseau des associations pour le développement communautaire, RADEC, vient de lancer le projet assistance multisectorielle d'urgence en protection aux survivants des violences sexuelles. Ce projet qui cible 800 victimes est exécuté dans 4 centres de santé, dont Kimbanseke 1, Camp Central, Wamaza et l'hôpital général de Salamabila. Avec l'appui financier de la Fondation Arnold de la Camara, ce projet va durer 6 mois. Explication avec Florence Kizalunga.
Selon la chef du projet, leur assistance est une réponse sur la prise en charge médicale et psychologique. À cela s'ajoute la sensibilisation des communautés. Alice Etchumbe.
Nous venons avec ce projet parce qu'au niveau de Kabambare, il y a quand même des cas de violences sexuelles qui sont identifiés. Et par rapport à ces cas de violences sexuelles, il n'y a pas la prise en charge médicale pour les survivants des violences sexuelles.
Un projet qui est très bien accueilli par le médecin directeur de l'hôpital général de Salamabila. Kamabila, docteur Boulaboula Amissi.
Nous accueillons ces projets d'urgence avec pompe, d'autant plus qu'il s'agit d'une des réponses à nos plaidoyers et adressées auprès de notre partenaire Médecins Sans Frontières qui s'est désengagé de notre zone depuis le mois d'octobre. Vu la situation sur terrain, nous demandons à l'organisation RADEC de continuer avec les plaidoyers pour que l'aspect prise en charge juridique et accompagnement socio-économique soit aussi intégré, afin que la prise en charge soit holistique.
Ainsi donc, un appel pressant est lancé aux survivants de violences sexuelles de se présenter à ces quatre structures sanitaires afin de bénéficier de cette réponse. Kendo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je le disais en titre, les sociétés minières pollueurs dans le Haut-Katanga, dans le viseur de la ministre nationale de l'Environnement. Marie Nyange ordonne par exemple la non-reprise des activités au sein de l'entreprise minière CDM, entreprise qui a pollué l'environnement en novembre 2025 à Lubumbashi. La ministre en mission dans la province du Haut-Katanga souligne également que toute reprise des activités au sein de cette entreprise qui a été scellée est conditionnée par l'évaluation approfondie dit des risques environnementaux. Le point avec Paulin Mounanga.
La ministre nationale de l'Environnement Marie Nyange a décidé de la mise sur pied d'une commission d'experts pour prévenir toute nouvelle catastrophe environnementale au sein de l'entreprise minière CEDEM. Cette commission sera composée d'experts nationaux et internationaux. Sa mission va consister à analyser en profondeur l'incident du 4 novembre 2025 à Lubumbashi. Pour rappel, cet incident était caractérisé par le débordement d'un bassin de rejet d'eau acide et ces eaux ont pollué l'environnement. Il sera aussi question pour cette commission d'identifier les défaillances techniques et de proposer des solutions durables destinées à prévenir toute récidive. Signalons que cette démarche vise à instaurer une exploitation minière respectueuse des normes environnementales et conforme aux engagements internationaux du pays. La ministre de l'Environnement a aussi échangé avec les opérateurs miniers à Lubumbashi. Elle leur a réaffirmé la ligne directrice du gouvernement qui est celle d'accompagner les entreprises tout en exigeant le respect strict de leurs obligations environnementales. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale pour parler de la suite de l'affaire de l'incendie délimité. La liste des dépôts de carburant à risque est déjà sur la table de la ministre des Hydrocarbures. Acacia Bandubola a reçu cette liste des mains de la bourgmestre de la commune délimité, Nathalie Alamba Feza. La rencontre est intervenue mercredi, soit deux jours après le sinistre qui a ravagé un dépôt de carburant à ciel ouvert au quartier Sokopao. Selon la bourgmestre Nathalie Alamba Feza, une équipe technique sera déployée dans les prochains jours pour procéder à des contrôles sur le terrain. Les dépôts à ciel ouvert et les installations jugées non conformes aux exigences de sécurité s'exposeront à des sanctions sévères pouvant aller jusqu'à leur fermeture immédiate, a-t-elle prévenu. Économie à présent, le projet stratégique du corridor de Lobito au menu de la tripartite RDC Zambie et Angola qui se tient depuis hier jeudi à Luanda. Cette réunion inaugurale de deux jours à laquelle participe la Banque mondiale réunit les ministres des Transports, des Finances et du Commerce extérieur des trois pays. Objectif, aligner les politiques, coordonner les investissements et mobiliser les partenaires publics et privés. Occasion aussi pour le président angolais João Lourenço, qui a donné le coup d'envoi de cette réunion, d'appeler les États et les partenaires financiers au pragmatisme pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Plus de détails avec Grace Amzati.
À en croire les vice-premiers ministres et ministres des Transports, la RDC mise sur une approche globale du corridor de Lobito, combinant transport, logistique, énergie, commerce et développement industriel, avec une première phase prioritaire sur le tronçon d'Ilolo-Kolwezi-Tenge. Jean-Pierre Bemba.
La priorité pour nous a été d'abord de stabiliser cette route pour qu'elle puisse être praticable. Et bien sûr, c'est un vieux rail que nous sommes en train de réhabiliter. Et avec les privés d'ailleurs, nous avons pu obtenir un financement de 110 millions de dollars qui nous permet d'intervenir sur 80 kilomètres de ce tronçon.
Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, insiste sur l'appropriation du corridor de Lobito par les pays concernés et sur la nécessité d'en faire un véritable levier de développement au bénéfice des populations.
Les collègues de Lobito souvent étaient perçus comme si ce sont les autres qui s'y intéressaient le plus que les acteurs eux-mêmes qui se concernaient. Et donc je suis heureux que maintenant les acteurs, c'est-à-dire l'Angola, la RDC, la Zambie, plus les partenaires, se mettent ensemble pour parler de ces corridors. Parce que si nous continuons à les considérer comme une infrastructure de transport, eh bien les populations vont continuer à rester dans l'état dans lequel les corridors les a trouvés.
Quant au ministre des Finances, Doudou Fouamba, il rappelle que la RDC mène des réformes pour consolider l'amélioration du climat des affaires.
Dans le chapitre de la justice, l'ancien président de l'Assemblée provinciale et l'ancien questeur du Haut-Lomami devront désormais affronter la justice. En tout cas, les membres du bureau de cette Assemblée ont autorisé mercredi au procureur général près la Cour de cassation les poursuites contre l'ancien président et l'ancien questeur. Et pour cause, ces deux personnalités sont accusées des détournements des émoluments des élus provinciaux. Pour rappel, ces anciens membres du bureau ont été déchus de leurs fonctions en octobre 2025 par les députés provinciaux pour les mêmes raisons. Reportage Paul Monanga.
Dans son réquisitoire, le procureur général près la Cour de cassation sollicite l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire à charge des députés provinciaux Basile Mouleba, ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, et Séraphin Moukaya, ancien questeur, accusé de détournement des émoluments des élus provinciaux. Signalons que ces poursuites judiciaires sont conformes aux dispositions de l'article 103 alinéa 6 et 7 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Le rapporteur de cette institution revient sur quelques griefs portés contre les deux personnalités. Senghor Kabondo Senghwa.
Ils nous ont détourné les émoluments du mois de mars 2024 et le mois de mai 2025. Lors de l'enquête auprès de la Banque centrale du Congo, la Banque centrale a mis à la disposition le relevé bancaire parce que la plénière avait mis sur pied une commission d'enquête. Le relevé bancaire démontre noir sur blanc que ces mois avaient déjà été payés sur toute l'étendue du pays.
Pour rappel, en date du 24 novembre 2025, l'Assemblée plénière avait voté une mise en accusation de ces deux députés pour les faits précités. Désormais, ils sont livrés entre les mains de la justice après l'autorisation du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, c'est le collectif des avocats du citoyen Nathanaël Onokomba qui tire la sonnette d'alarme. Voilà un mois depuis que leur client est toujours détenu à la prison militaire de Kinshasa Ndolo. Ces avocats de Nathanaël Onokomba, leader du mouvement citoyen Jeunesse Extrasystème, dénonce une violation flagrante des droits fondamentaux de leurs clients. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, ses avocats déplorent l'absence totale de suite judiciaire depuis son enlèvement le 5 janvier dernier, suivi de son incarcération le 12 janvier. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition. Plus de détails avec Grace Amzati.
Le communiqué précise que lors de sa seule audition en date du 21 janvier, il n'a été question que de ses opinions politiques critiques à l'égard du pouvoir exprimées sur les réseaux sociaux en juin 2025, des opinions protégées par la liberté d'expression. 31 jours se sont écoulés sans que des charges valables ne soient portées contre lui, ni que sa mise en liberté soit accordée, malgré les demandes répétées de ses défenseurs. Les avocats soulignent que, conformément au principe fondamental en matière pénale, la liberté doit être la règle et la détention l'exception. Dans le cas où des accusations pénales seraient établies, il demande que l'affaire soit portée rapidement devant son juge naturel dans le cadre d'une procédure publique, contradictoire et impartiale. Selon le communiqué, le maintien actuel de Nathanaël Onokomba en détention constitue une violation manifeste des droits garantis par la Constitution congolaise, les lois nationales et les instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC.
Et sur un tout autre chapitre, les infirmiers du Congo optent notamment pour la facilitation du processus de paix, la mécanisation des agents, l'admission du statut ainsi que la promotion en grade. Ils l'ont déclaré mercredi ici à Kinshasa lors de la clôture de la 4e édition du Conseil national de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo. Réunion qui s'est terminée à la satisfaction des participants. Après 3 jours d'échange, le secrétaire général de l'UNIC a insisté sur la nécessité urgente d'améliorer les conditions socio-professionnelles des blouses blanches, soulignant que les infirmiers jouent un rôle indispensable dans le système sanitaire congolais, mais demeurent encore insuffisamment valorisés. Joseph Kibangula au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Dans cette déclaration, nous avons mis l'accent sur les problèmes qui tracassent les infirmiers, notamment dans les pays. Et c'est la question des banques qui payent les agents et qui payent les infirmiers. Parce que nous avons compris que ces banques-là, comme je l'avais souligné à l'ouverture, ça devient un casse-tête pour nous. Ça ne nous permet plus de travailler avec dignité. Donc les banques se mettent à la place du gouvernement pour commencer à prendre des mesures contre les agents. Et c'est ce qui affaiblit souvent la motivation dans les services. Nous sommes toujours en discussion avec les gouvernements concernant l'alignement à la prime de risque, la rémunération de cette, la mécanisation des infirmiers comme des agents de l'État, parce que nous avons demandé une mécanisation immédiate. Il faut que les gouvernements prennent ces précautions pour nous donner des réponses à tous ces problèmes-là, parce que nous avons plus de 80 000 infirmiers dans le pays qui attendent la mécanisation, l'admission au statut, la promotion en grade. Tout cela n'arrive pas à cause de la lenteur administrative du gouvernement.
Actualité internationale.
L'Iran et les États-Unis entament ce 6 février à Oman des négociations que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire, Washington laissant pour sa part planer la menace militaire en cas d'échec. Les violences et les harcèlements exercés par des colons israéliens en Cisjordanie occupée ont déplacé près de 700 Palestiniens en janvier, a indiqué l'ONU jeudi, un niveau inédit depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2020.
L'invité.
Le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central a autorisé le mercredi 28 janvier 2026 l'ouverture d'une instruction judiciaire à l'encontre du gouverneur de cette province, Grace Mpanga Maswangi Bilolo. Motif, les détournements présumés des deniers publics. Cette question a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. On les écoute au micro de Jean-Marc Matoki Mofelele.
Nous allons nous tourner du côté du ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement du Congo central, Monsieur Jean Malongo. Comment analysez-vous les accusations formulées contre le gouverneur Bilolo?
Au départ, il y a eu une structure de lumière, notabilité de 366 notables, voilà. Et à la tête de M. Joseph Mabanga, qui avait saisi la présidence pour dénoncer tout ce que vous avez dit là. Et l'IGF est descendu au Congo central pendant une période, hein, et l'IGF a enquêté sur la gestion de la province par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province. Et l'IGF a produit un rapport. Alors, vous dites qu'il y a eu des présomptions. Effectivement, toute personne est constituée dans ce qu'on le qualifie de infractionnel, hein. Donc, il s'agit là de présomption. Donc, la personne est présumée innocente.
Exact.
Jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui met en force des choses. Donc, tout ce que vous venez de dire, ce sont des présomptions. Ce sont des présomptions. Je venais de dire que l'IGF a produit un rapport sur tout ce qui a été dénoncé par M. Joseph Mabanga, qui prétend être à la tête d'une structure. Bon, je ne sais pas, est-ce que juridiquement cette structure existe? En tout cas, je n'en sais rien, mais du moins, c'est lui qui avait initié cette procédure, qui a conduit à la production d'un rapport par l'Inspection générale des finances.
Monsieur Joseph Mabanga Fouati, président de la cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements du Congo central, que reprochez-vous exactement au gouverneur Grace Mpanga Bilolo, monsieur Mabanga?
Nous reprochons, nous la cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements. Ce qui se passe au Congo central, c'est le pillage. C'est un gouvernement composé d'une association de malfaiteurs. Et chacun d'eux, après le jugement de Grace Mpanga Bilolo, qui sera un jugement que nous allons dénommer Mutamba 2, chacun de ces ministres qui complotent contre la République, en général le Congo central, sera mis en accusation. Nous avons toutes les magouilles que vous faites.
Est-ce que vous avez des preuves des accusations que vous
avez? Je viens, tenez, nous sommes le 5 mars. Joseph Mabanga, expert au cabinet du gouverneur, lui présente sa démission, et dans ma démission, c'est 20 pages. j'ai accusé M. Grace Nkwanga Bilulu de mégestion et d'incompétence notoire.
Nous allons cette fois-ci accorder la parole à Maître Soudi Kimputu Alimasi, avocat expert en décentralisation. Maître, comment analysez-vous cette nouvelle crise au niveau des institutions au Congo central?
Permettez-moi de faire un petit rappel, parce que l'émission Dialogue entre Congolais a aussi des fois un rôle pédagogique. Nous avons décrié, nous qui sommes presque des sentinelles du processus de mise en œuvre de la décentralisation, la paralysie du contrôle parlementaire au niveau des institutions provinciales par le pouvoir de Kinshasa. Et aujourd'hui, permettez-moi de féliciter cette institution citoyenne appelée, je crois, cohésion provinciale des notables des 366 groupements, où je trouve M. Joseph Mabanga à la tête. Cette structure a permis de contourner l'immixion, l'ingérence du pouvoir central sur le contrôle parlementaire au niveau provincial. D'abord et avant tout, c'est l'Assemblée provinciale qui devait découvrir ses soupçons. Ça ne devait pas être la présidence de la République. Et encore une fois, ça pouvait être à l'initiative aussi, soit de la Cour des comptes, soit de l'Inspection générale des finances. Et aujourd'hui, suite à la vigilance, et on appelle ça le contrôle citoyen dans le processus de la décentralisation, ça veut dire que ces citoyens congolais ont remarqué quelque chose, ils ont saisi, et là je félicite cette fois-ci la présidence de la République qui a joué son rôle de garant des institutions en vertu de l'article 69 de la Constitution. Et je souligne ici que je ne dis pas que monsieur le gouverneur est déjà coupable.
C'était les intervenants à l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi, animée par Jean-Marc Matoaki Mofelele. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition du journal, coordonnée et supervisée par Lievin Mbwinga Vubu. La mise en onde était assurée des mains des maîtres par Jean-Claude Tsala Mwanama Kengontswalu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.